J'améliore l'aspect ou le goût et j'assure la conservation. Je facilite la mise en forme et l'administration du principe actif. J'ai aussi l'aval de l'OMS. L'OMS, vous savez, l'organisation matinale du son. Je suis Jean-Jean L'Excipient. Bien le bonjour, auditeurs, auditrices de Principe Actif et HDR. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mars 2023. Bonne fête à toutes les Colettes. Au sommaire de cette matinale, nous aurons à nos micros Sarah et Benjamin de l'association Silence à l'écoute. Ils nous parleront de cet espace d'échange pour les victimes et proches de victimes de pédocriminalité avec des prochaines réunions mensuelles. Voilà. Et puis, nous partirons du côté de la commune des Authieux, entre Saint-André-de-l'Eure et Danville, où l'association, la structure ADS Insertion, à redonner vie à l'ancienne école du village pour la création d'une ressourcerie. Nous en parlerons avec Latifa et Stéphane. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ils sont là. Tout le monde est là. C'est parfait. Eh bien, Latifa et Stéphane, effectivement, on parlera de ce projet qui est déjà quelques mois quand même, hein, voire même peut-être quelques années sur la, à propos de la ressourcerie. C'est quoi ?
Alors, la ressourcerie a ouvert en septembre 2022.
Oui, c'est
mais,
ça, quelques
mois. Mais ADS
mois.
Existe depuis 40 ans sur le sud de l'Eure.
Eh bien, voilà. On aura l'occasion, donc, effectivement, d'en parler. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura de la chronique musicale de Mr. Vinyl & Co, l'ami Steve, du répondeur, peut-être ou peut-être pas, peut-être pas. Ouais, bah c'est le début de la semaine, week-end, on se repose. Hein. Du bon son, ça c'est certain, et surtout de la bonne humeur. Vous écoutez, mesdames et messieurs, le principe actif, le pire reste à venir. 102.4, 95.9 dans le sud du département, et puis chez nos amis rouennais. Coucou du côté de Rouen, ouais, du côté de Rouen HDR, 99.1. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Allez, c'est parti !
Is there anybody there ?
Toi, Jean-Jean, ouais.
Mm-hmm.
extrait de son dernier album Tambour Vision, Monsieur Bertrand Belin, et ce titre, La Nouvelle. C'est un auteur-compositeur, Bertrand Belin, souvent comparé à Bachoum, et puis à d'autres aussi. Moi, je pense un peu, il y a un petit côté Rodolphe Berger, Catonoma. Écrivain prolifique, compositeur, génial, touche à tout. Bertrand Belin vient jouer son dernier album, comme je le disais à l'instant, Tambour Vision, en plein cœur d'Évreux, puisque ça va se passer samedi, là, ce samedi 11 mars, à partir de 20h, au Cube. Voilà, c'est l'antidote idéal à nos angoisses et nos solitudes, une mixture hybride de pop francophone incitant à l'ivresse des sens et des luttes. Venez, venez, venez au Cube, Bertrand Belin, ce samedi.
C'est pas un 10 de ton Mozart.
Mais c'est l'ami Steve au bout du fil.
Eh oui, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, de quoi vas-tu nous parler ce matin, monsieur?
Alors, ce matin, je vais vous parler de Green Day avec leur album American Idiot, sorti en 2004.
On dit, ça nous rajeunit pas, ça nous rajeunit pas.
Ça commence. Donc, rares sont ceux qui auraient pensé, auraient parié que Green Day, en fait, réaliserait le succès hard rock du 21e siècle. L'album, c'est vrai, précédent du groupe, c'était pas vendu, en fait, c'était vendu qu'à 1,5 million d'exemplaires aux États-Unis, et le talent de Billy Joe Armstrong n'était souligné que par les plus fidèles du groupe. Pour le grand public, Green Day se reposait sur ses lauriers depuis le grand succès de Dookie en 94. Alors, nullement découragé, Armstrong et sa clique ont conçu leur album suivant, Cigarettes and Valentines, un peu dans le même style. Avant que les cassettes d'enregistrement ne disparaissent, ne s'égarent, ce qui les a obligés à tout recommencer. Alors ça, c'est la version officielle. D'après le producteur Rob Cavallo, les chansons étaient tout simplement médiocres. Alors, leur persévérance était récompensée par des ventes de plusieurs millions d'exemplaires de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, au grand plaisir de leurs fans, on va dire Intello, c'est un album concept qui devait beaucoup en fait à Quadrophenia des Who. Mais là où ce dernier pâtissait d'une certaine lourdeur spirituelle, American Idiot comprend des mélodies formidables. Il est rare de pouvoir dire qu'un album qui contient deux morceaux de 9 minutes, ce qui n'y a pas une seconde, qui est superflu. Green Day a même réussi à laisser une place à Rock'n'Roll Girlfriend, morceau un peu pince sans rire, très cool, et qui est né des cendres de l'album précédent Cigarettes and Valentines. Alors American Idiot, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends et Jesus of Suburbia ont été des morceaux à succès de l'album. Mais chaque phrase musicale et chaque refrain sont réussis. Alors, en fait, la grenade de la pochette n'était pas forcément nécessaire. Alors aussi emblématique qu'elle soit, la musique était tout simplement destinée à exploser. Et Armstrong parlait de cet album en disant « L'étincelle peut lancer une émeute » en 2005. Et je vous laisse sur le super titre « Holidays ».
consolider la sélection de Mr. Vinyl & Co.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et nous sommes en compagnie ce matin de Benjamin Perrault, sophrologue, et Sarah Dequen, c'est ça ?
Dequen.
Dequen, pardon, psychologue. Tous les deux de l'association Silence à l'écoute. Vous êtes avec nous ce matin. Bonjour à vous.
Salut Jean-Jean.
Salut. Alors, Benjamin, on le présente presque pas parce qu'il est passé par la matinale en novembre dernier déjà, nous faire un petit coucou et nous parler un peu des événements et également d'un événement mélangeant le théâtre avec la thématique de silence à l'écoute, puisque c'est de ça qu'on va parler ce matin. Allons-y, on va redéfinir un petit peu, est-ce qu'on peut rappeler l'engagement et les missions de cette association que vous représentez tous les deux, l'association Silence à l'écoute.
Bien sûr. Silence à l'écoute, c'est une jeune association, puisqu'elle est née en octobre 2021, pour être précis. Elle vise particulièrement à lutter contre la pédocriminalité dans le département, mais aussi dans les départements limitrophes. Mm-hmm. L'objectif premier est vraiment de pouvoir libérer la parole des victimes,
ouais.
Qu'elles soient d'ailleurs enfants, adolescentes ou même majeures en fait aujourd'hui, libérer leur parole sur ce qui leur est arrivé. Donc je pense qu'il est important de redéfinir aussi terme pédocriminalité,
qu'on utilise
de plus en plus aujourd'hui.
Exactement.
Ce sont tout simplement en fait des crimes sexuels qui ont été commis par des personnes majeures sur des personnes mineures.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on parle plus facilement qu'avant, justement, de pédocriminalité, d'inceste, d'agression sexuelle, avec peut-être justement l'arrivée du mouvement MeToo, qui est pas si vieux que ça, puisque ça date d'il y a 2017, je crois. Est-ce qu'on a le sentiment qu'on en parle davantage, ou est-ce qu'il y a beaucoup à faire ?
Tu as raison, Jean-Jean. C'est vrai qu'il y a pas mal de mouvements comme celui-ci que tu cites qui favorise cette prise de conscience collective et qui favorise tout simplement la parole de tous, et pas forcément des personnes qui sont directement concernées par cela. Maintenant, à mon sens, il y a encore beaucoup à faire en la matière. On peut citer aussi de nombreux sportifs qui ont contribué à ça ces dernières années, qui ont libéré leur propre parole et qui contribuent à libérer la parole des autres sur ce sujet-là. Ouais. Mais je suis intimement convaincu que plus on en parlera, plus ça contribuera à endiguer en partie ce fléau.
Sarah, vous êtes avec nous ce matin en tant que psychologue. Justement, une question que je me pose, est-ce que c'est compliqué quand même, les enfants se sentent coupables, se sentent salis, n'ont peut-être pas non plus envie de prendre la parole et de parler de ce qui leur est arrivé.
Alors oui, c'est un phénomène qui est assez compliqué pour les enfants. Parce que déjà, ils sont souvent en présence régulière et confrontés à leur agresseur de façon régulière, donc ce qui empêche la prise de parole.
Il y a un côté schizophrène quand même un petit peu. Enfin, le côté, c'est peut-être l'ami de la famille, c'est peut-être quelqu'un de très reconnu.
C'est ça. Donc dans la plupart des cas, je crois qu'on est à 9 situations sur 10, l'agresseur est connu de l'enfant. Donc c'est un proche, c'est de la famille, un ami. Il est souvent tenu au secret, sous la menace de l'agresseur. Ou de façon indirecte. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour l'enfant de parler. Un, parce qu'il est tenu au secret. Deux, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, qu'il n'a pas forcément de référence autre. Ça peut être aussi quelque chose qui est vécu dans une norme. Et puis en plus de tout ça, on n'a pas le temps de parler de développer tous les sujets, mais il y a une amnésie traumatique qui se crée chez l'enfant souvent. Donc ce qui fait qu'il est, si vous voulez, on n'est pas dans de la schizophrénie, mais on est dans quelque chose de dissocié. Donc il va fonctionner de façon automatique et ses émotions sont coupées. Et donc il coupe ses émotions de sa réalité pour pouvoir survivre. Et à partir de là, c'est pour ça qu'il ne va pas parler pendant des fois des années, des dizaines, des vingtaines d'années, mais aussi parce que va s'effacer de sa mémoire ce vécu pour survivre. Donc il n'est pas effacé dans le sens où il est conservé, mais il ne peut il ne ça va faire, voilà, c'est comme si ça n'existait pas. Hein, ouais. Il se crée deux réalités pour survivre. D'où le fait que l'enfant ne parle pas ou parle peu. Et l'intérêt d'une association, je pense, comme la nôtre ou comme de nombreuses associations qui luttent contre le sujet, c'est de pouvoir justement aller aussi vers des publics mineurs, aussi de pouvoir dire à l'enfant voilà ce qui est normal, voilà ce qui n'est pas normal, et d'abord en prévention, hein, d'abord en prévention.
Alors justement, avec l'association Silence à l'écoute, Benjamin et Sarah, quels sont les moyens et les actions pour faire en sorte de libérer les paroles?
Bonne question. Plusieurs actions hein, déjà ouais. de mise en place. La première, je vais citer les temps de sensibilisation qu'on est amené à mener, principalement en milieu sportif jusqu'à maintenant, puisque moi les faits me concernant lorsque j'étais adolescent ont eu lieu au sein d'un milieu sportif.
Ouais, environnement sportif.
M'amène voilà principalement à intervenir auprès d'entraîneurs, auprès de dirigeants de structures, auprès d'éducateurs sportifs pour les sensibiliser en fait à ce phénomène. Mais aussi pour les former. Dans bien des cas, quand j'interviens sur un temps de sensibilisation, ces professionnels de l'enfance en milieu sportif ont un réel besoin d'être formés sur le recueil de la parole de l'enfant. Tu vois, sur comment on vient recueillir la parole d'un enfant par rapport à cela, ou dès lors qu'on détecte des premiers signaux hein, chez l'enfant, des signaux qui peuvent être physiques comme psychiques, et donc comment on amène l'enfant à parler de cela. Et puis surtout derrière, qu'est-ce qu'on en fait en fait une fois que l'enfant a révélé ce qui lui était arrivé, quels outils, quelles procédures on utilise, j'entends par là signalement, informations préoccupantes, donc comment on vient travailler tout ça et où est-ce qu'on s'arrête aussi, parce que ça c'est important hein, on a tous nos limites par rapport à ça.
Et comment donc, c'est perçu, comment quand il y a une proposition comme ça, donc si je comprends bien, il y a des formations hein, sur des tu proposes avec l'association. L'association propose ses formations de sujets sur le sujet de la pédocriminalité, pardon, qui s'adresse donc, on l'a vu par exemple à des structures sportives, peut-être à d'autres également, d'autres professionnels,
oui, d'autres formes associatives, des structures sociales notamment. Hein, le but est aussi de pouvoir travailler auprès d'assistantes sociales.
C'est vous qui faites le premier pas à leur proposer.
Plupart du temps.
Comment c'est ressenti, comment c'est accueilli, comment c'est.
À chaque fois, ça permet de constater que le besoin est réellement là. Hein, qu'il n'y a pas d'association jusqu'à maintenant sur le secteur qui œuvrait là-dessus. Et donc les personnes que je rencontre dans ce cadre-là sont unanimes sur le fait qu'il y a ce besoin-là qui mérite d'être rempli tout simplement hein. Donc ce sont des temps forts, des temps très riches hein, humainement.
J'imagine,
parce qu'il y a énormément d'échanges, d'interactions et on en ressort forcément tous grandi en fait par rapport à la nature des échanges sur une journée complète en fait hein. Donc ça, ce sont les premiers temps. On a eu l'occasion, j'étais venu, tu le disais, venir promouvoir aussi un événement théâtral.
Dernier, ouais, tout à fait.
Parce que ça me semble important de pouvoir aussi ouvrir ces temps de sensibilisation à toute personne. Donc le support théâtre est un bon format pour en parler.
Est-ce que ça permet de dire des choses? Est-ce que ça fait justement
de faire passer le message,
faire passer des messages
aussi
différemment,
et d'animer des échanges en suivant, parce que voilà, les personnes en ressortent avec pas mal de questions.
Ça s'est passé le jeudi 24 novembre. Dernier,
ouais, c'est ça, à l'hôtel du département. On avait co-organisé ça avec une structure sportive qui s'appelle PSL 27.
Voilà, ça s'est bien passé.
Super. Il y avait une soixantaine de personnes présentes. C'était vraiment un temps fort et très très riche aussi. La projection de films aussi, c'est un super support.
Oui.
Nos amis de la brasserie sport nous ont permis cela.
Oui,
en
j'ai vu
en
passer ça.
Aussi,
tout à fait.
Pas de bêtises.
Également.
On avait projeté le film de Carl Zero qui s'appelle 1/5, et s'en était suivi des échanges que Sarah avait aussi eu l'occasion d'animer à mes côtés.
Ouais.
Donc voilà, avec une dimension aussi plus un peu plus technique sur l'apport en psychologie.
Vous êtes à la recherche justement d'autres supports comme ça, comme le théâtre, le cinéma, ça.
Oui, en effet. Ce sont vraiment des supports très intéressants qui permettent de se décaler, de parler du sujet, mais moins en frontal. Le théâtre, on sublime les choses. On est dans, on peut tout, à chaque fois. Je veux dire, tout le monde peut s'y retrouver, et puis en même temps, ça permet de décaler, d'être moins dans du direct. Donc, tous ces supports-là sont intéressants, mais on pourrait avoir des ateliers en partant avec de l'écriture, avec de l'art. Je crois qu'il y a, les supports sont illimités. Le principal, c'est comment on amène le sujet et dans des espaces de prévention, mais aussi dans des espaces d'accompagnement. Parce que voilà, il y a aussi ces fameux groupes de parole hein, qu'on propose pour le moment à des adultes, hein, à des adultes qui ont été victimes dans leur enfance, oui, de pédocriminalité. Donc on leur propose aussi ces espaces pour parler, pour partager, pour s'exprimer sur leur parcours, sur leur vécu, sur les questionnements qui en ressortent, comment on est un adulte quand on a vécu de telles choses dans l'enfance. Donc voilà, c'est aussi des actions qu'on commence à mettre en place, ouais, et dont on vient aussi en parler aujourd'hui.
On en parle justement, parce que c'était un peu la question. vous avez répondu, comment s'anime un groupe de parole, comment s'articulent ces temps de sensibilisation, ouverts à tous, on l'a dit, donc effectivement, jeunes et moins jeunes, parce que aussi bien des enfants que des adultes.
Exactement, les temps de sensibilisation sont ouverts à tout public, ouais, et je pense que on avec les actions qu'on mènera en fonction des supports aussi qui seront proposés, ouais, ça parlera plus à des jeunes, à des moins jeunes, et je crois qu'il en faut pour tous. Le principal, tout le monde est concerné.
Alors justement, les 15 et 24 mars prochain, donc dès la semaine prochaine et puis la semaine d'après, vous lancez ces groupes de parole.
Oui, c'est exactement ça.
Allons-y.
Voilà, tu dis vous, effectivement, parce qu'on est plusieurs.
Vous êtes plusieurs.
J'ai eu la chance, de m'appuyer sur une petite équipe là depuis 3-4 mois. Mm-hmm. Donc Sarah fait partie de cette équipe au niveau de Silence à l'écoute.
Ouais.
Adrien Tournier qui lui est coach PNL.
Ah ben on les cite.
Jeanne-Henri qui est éducatrice spécialisée, et puis Marie Curie, alors qui est une brillante cuisinière, tu la connais, mais qui a aussi plein d'autres qualités et qui est d'un réel apport au sein de ce groupe de travail.
Ça ne m'étonne pas.
Donc on va être amené à co-animer en fait deux groupes de parole distincts en fait.
D'accord.
Le premier qui va être dédié à des victimes majeures, comme le disait Sarah. Il se tiendra à la cause des enfants, ouais, le 15 mars prochain, donc c'est un mercredi, à 18h30.
Une structure partenaire, j'imagine.
Oui, tout à fait. Nathalie Letor qui nous a ouvert grandes ses portes et qui nous a permis de bénéficier de ce partenariat et de bénéficier de l'usage de ces locaux en fait pour tenir ces groupes de parole, pour animer ces espaces d'échange. On les a pensés comme ça en fait. Tout à l'heure tu parlais de sentiments négatifs lorsqu'il nous arrive ça. On peut citer la peur, la colère, la honte, la culpabilité. Et je crois que l'un des premiers objectifs de ces groupes de parole, il est là, c'est de pouvoir favoriser la diminution de ces sentiments-là si négatifs en chacun.
On parlait justement de partenaires, moi je voulais en connaître un petit peu davantage. Il y a d'autres partenaires, d'autres thérapeutes, d'autres associations que la cause des enfants, peut-être des avocats, je ne sais pas.
Oui, alors on va être amené à animer ces groupes de parole-là en binôme. Le premier, je vais l'animer avec Sarah, donc dédié aux victimes, et puis Adrien et Marie animeront le second, dédié aux proches de victimes. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça.
Je t'en prie.
Le second groupe a réellement un caractère innovant, puisqu'il n'y a aucun endroit en France, en tout cas d'après les recherches que j'ai pu faire, aucune structure qui propose des groupes de parole dédiés aux proches. Et dans bien des cas, les proches sont des victimes collatérales, ressentent elles aussi de la colère, de la peur, de la honte, de la culpabilité. Je pense qu'il est vraiment important aussi de pouvoir leur offrir cet espace.
Le besoin de s'exprimer.
Tout à fait.
L'idée, c'est d'abord de rompre son isolement.
Oui.
On en parlait tout à l'heure des enfants qui ne parlaient pas, qui étaient seuls avec leur douleur. Et c'est d'abord l'objectif de ces groupes, de sortir de sa solitude, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de pouvoir aussi parler de cette sensation de culpabilité. Faut savoir que les agresseurs retournent la situation en son contraire, c'est-à-dire que c'est la victime qui devient coupable. Et donc là, c'est de pouvoir remettre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire la honte, la culpabilité appartiennent à l'agresseur et pas à la victime. Donc comment on en parle dans les groupes, qu'on soit victime ou proche de victime, parce que les proches de victimes ont vraiment un vrai sentiment d'impuissance et souvent se reproche de ne pas avoir vu, de ne pas avoir pu agir.
Tu nous questionnais sur les partenaires thérapeutes aussi, ça a été
on en a parlé un petit peu, mais
la grande mission depuis la naissance de l'association Silence à l'écoute, d'aller à la rencontre de nombreux thérapeutes sur le secteur d'Évreux, mais aussi dans un rayon d'une trentaine de kilomètres, vraiment être en mesure aussi d'orienter les victimes en fonction de leurs besoins, donc de les orienter dans cette démarche de soins finalement. Bien sûr, psychologue, pédopsie, psychopraticien, psychothérapeute, mais aussi hypnothérapeute. Enfin, il y a tout un tas de techniques, sophrologue et j'en passe en fait, où voilà, qui peuvent réellement apporter un réel appui en fait à la victime en fonction de aussi en fonction de l'étape dans laquelle se trouve la victime au moment où on la rencontre.
Oui, parce que toutes les victimes sont différentes, bien évidemment.
Ben oui, puis tu n'as pas le besoin au moment, si t'es au stade de la révélation ou si t'es 5 ans après ou si tu viens d'entamer une démarche judiciaire pour donner aussi de la visibilité par rapport à tout ça, en fait.
Oui, c'est ça. Ce qui est aussi tout un accompagnement dans la démarche judiciaire, qu'on peut proposer aussi. Hein, donc, l'orientation, elle est vers des professionnels de santé, mais vers aussi des professionnels du milieu judiciaire.
Ouais. Donc, des cabinets d'avocats,
exactement.
C'est ça, des professionnels. Ce qui s'appelle la VED, ACJE aussi, qui est basé sur Évreux, qui fait un super boulot depuis pas mal d'années et qui est sur ce volet conseil juridique pour les victimes de pédocriminalité.
Benjamin Perrot, Sarah Decoun, Silence à l'écoute, c'est l'association ce matin qui nous parle effectivement de ces prises de parole et de ces ateliers qui démarrent les 15 et 24 mars prochains. Comment on fait pour vous contacter? Il faut réserver, il faut passer un petit coup de téléphone, il faut aller sur le site, je suppose, de Silence à l'écoute.
C'est ça. Alors on n'est pas obligatoirement, c'est pas obligé d'aller directement sur le site. Je vais laisser tout simplement les coordonnées téléphoniques, parce qu'effectivement il est préférable quand même de passer un petit coup de fil avant de se présenter à ce groupe de parole. Voilà. Donc le numéro est le 07 49 63 96 78.
Parfait. Et sinon, ça va se dérouler où exactement? Donc
à la cause des enfants, située Faubourg Saint-Léger dans Évreux.
Voilà. Donc, c'est dans l'après-midi, en fin de journée?
Fin de journée. Ouais. On a calé ça. Le premier qui se tient le 15 mars est à 18h30.
Oui.
Et le second, dédié aux proches de victimes, se tiendra le 24 mars à 18h. Les gens peuvent me joindre aussi directement par mail sur l'adresse mail silence.a.l'écoute@gmail.com.
Ou sur le compte Instagram, où les futures dates seront indiquées au fur et à mesure. Hein, vu que ce sont des rencontres mensuelles, on en prend, il y en aura une par mois. Cela peut être suivi sur Instagram à Silence à l'écoute, tout attaché, sans accent.
Ce sont des groupes ouverts. Ouais. Je pense que c'est important de le dire aussi. Hein. C'est-à-dire que les personnes arrivent et repartent quand elles le souhaitent, en fait.
Il n'y a pas d'engagement.
On peut conserver l'anonymat si la personne le souhaite aussi.
C'est gratuit aussi. Hein. Il n'y a pas de modalité financière.
En tout cas, merci d'être passé par les micros de Principes Actifs. Je vous propose de se quitter avec un extrait du nouvel album d'Arthur Ashe. Pourquoi? Parce que Valérie Lehoux a écrit un livre sur la vie de Jacques Higelin, qui a été confronté, donc traumatisé, et qui avait énormément de difficultés à en parler. Et ça s'est su après la disparition de Jacques. Et Arthur Ashe vient de sortir un album et des titres qui expriment justement pas mal de choses. On écoute Le Secret, ça figure sur ce nouvel album. J'ai fui le fantôme et baisé la mort pour célébrer la vie. Alors cette histoire qui me tue, relève-la, libère-moi. Voilà, c'est extrait de ce titre qu'on écoute. Merci en tout cas, merci Sarah et merci Benjamin.
Merci à toi Jean-Jean.
Merci à vous.
Principe actif, c'est actif par principe.
Il faut que tu le saches, les mensonges sont efficaces quand personne ne soupçonne les secrets qui se cachent. Le danger, la douleur, ce que j'ai dû endurer, le courage de s'enfuir, il faut que tu le saches. Oh, il m'a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Les vents chassent la pluie, oh, il m'a dit, pas un mot, pas un bruit, avant que la pluie cesse, que le soleil apparaisse, que le soleil apparaisse. tu avais l'art de brûler mes ailes. J'ai frôlé l'amour et la folie elle-même. J'ai fui le fantôme et baisé la mort pour célébrer la vie. Alors cette histoire qui me tue, révèle-la, libère-moi et laisse-moi te prendre dans mes bras. Je partirai avant toi. Oh, il m'a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. De l'océan, les vents chassent la pluie, la pluie. Oh, il m'a dit, pas un mot, pas un bruit, avant que la pluie cesse. Le soleil apparaisse.
Monsieur Arthur H. Il était venu en 2018 défendre son album Amour Chien Fou du côté du Cube et il revient du côté du 106 pour défendre son nouvel album La Vie et ce titre extrait de cet album. Il revient au 106, ce sera le 1er avril à partir de 20h du côté de Rouen. Voilà le secret extrait de l'album d'Arthur H.
Oh bah c'est bien. Et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans ça être... Oui.
Principe actif à Évreux.
Oui.
SDR à Rouen.
Oui. Merci de toutes ces précisions.
SDR, principe actif.
Et merci de toutes ces précisions. Nous poursuivons notre heure de matinale. Le pire reste à venir. Voilà, avec ce matin également à nos micros Latifa Belouari et Stéphane Gouraud. Latifa, vous êtes directrice de la structure de l'association ADS Insertion. Et puis Stéphane, vous êtes encadrant, hein, c'est ça?
C'est ça.
C'est ça. Voilà. Alors merci d'être avec nous ce matin pour effectivement, faire un petit coup de projecteur, bien évidemment, sur la structure, sur ADS Insertion, et puis sur cette ressourcerie du côté des Authieux, petite commune qui se situe entre Saint-André-de-l'Eure et Danville. Voilà, un petit village. Alors déjà, j'ai envie de poser la première question, Latifa. C'est quoi une ressourcerie?
Alors, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir pour parler d'ADS. Donc, une ressourcerie, c'est un lieu où on peut déposer des objets pour leur redonner une seconde vie. Mm-hmm. Et la particularité avec ADS, c'est que cela permet de faire travailler des hommes et des femmes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, on allie, on va dire, le développement durable, l'économie circulaire et l'emploi local grâce à cette action.
Donc, c'est la légitimité d'ADS d'ouvrir ce type d'endroit, voilà. Parce qu'en fait, on rappelle un petit peu, c'est une structure qui a quelques dizaines d'années.
Alors, on a un peu plus de 40 ans sur le sud de l'Eure. Voilà. Hein, la première association ADS Emploi a été créée en 1988. Ouais. Nous intervenons sur tout le sud de l'Eure. Donc, le siège social est à Saint-André-de-l'Eure. Mmh. Et au fur et à mesure, nous avons mis en place des actions en faveur du public en difficulté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'association a donné naissance à d'autres associations, dont ADS Insertion, avec toujours comme objectif de permettre à des hommes et à des femmes de retrouver le chemin de l'emploi avec un accompagnement. Mmh. Et donc, la ressourcerie est un des derniers projets que nous avons porté en collaboration avec des élus. Le projet a démarré en 2016, nous sommes en 2023. Et ce projet, si je peux me permettre, est né à partir d'une idée échangée avec M. Claude Royoux, maire de Marcilly-sur-Eure à l'époque, en 2016.
D'accord.
Voilà. Et puis avec, à l'époque, le président de l'Interco, puisqu'il y avait une Interco
qui était sur Saint-André.
Qui regroupait toutes les...
On était avant EPN.
Tout à fait. C'est parti d'une idée, d'un échange que j'ai eu avec M. Royoux, parce que dans sa commune, il avait beaucoup de jeunes, enfin, dans sa commune et d'autres communes alentours, pour qui, nous, dans le cas d'ADS Emploi, on ne pouvait pas toujours leur offrir des missions.
Ouais.
Et voilà. Et puis il y avait aussi des encombrants, puisqu'il y avait les encombrants, et on s'était dit pourquoi pas essayer d'associer l'emploi et redonner une seconde vie aux encombrants. Donc c'est parti de ça, de cette idée. On a aussi associé la mission locale à l'époque. Voilà, donc c'est parti de ça. Comment redonner une seconde vie à des objets et permettre d'employer des personnes en difficulté sur ce territoire?
Alors Stéphane Gouraud, vous êtes encadrant au sein de cette structure et puis vous êtes aussi sur cette ressourcerie, c'est ça? Quelles sont vos fonctions? C'est quoi un encadrant au sein de ADS?
Un encadrant, ça consiste en fait à organiser la journée de travail. Ouais. Bon, ce qui est intéressant dans une ressourcerie, c'est qu'on fait plusieurs missions. Hein. Les quatre missions d'une ressourcerie, c'est la collecte.
Ouais.
La collecte, le tri, la valorisation des objets qu'on a collectés, la vente et également la sensibilisation. La sensibilisation sur le gaspillage, sur l'importance du tri. Voilà, donc c'est assez polyvalent comme mission. Et donc, je dois organiser, moi, le travail des salariés en insertion.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui les intéresse. En plus, c'est parce qu'il y a un aspect vente, il y a un aspect collecte, il y a un aspect
logistique,
sensibilisation, et puis évidemment la valorisation.
Il faut avoir une expérience ou pas du tout. On l'apprend justement. On va pouvoir l'acquérir au sein d'ADS entre la vente, entre la gestion de stock, comment ça se passe, Latifa.
Alors, il faut savoir que donc nous sommes une structure d'insertion par activité économique. Ouais. Hein, l'activité, on ne l'exerce pas comme ça. On a une autorisation par la préfecture. Nous sommes soutenus par l'État, le conseil départemental. Et les personnes qui s'adressent à ADS, que ce soit ADS Emploi, ADS Insertion ou sur les autres structures, il n'y a pas de prérequis. Il faut avoir juste envie de reprendre, avoir envie à nouveau de pouvoir reprendre une vie sociale, un travail. On tient beaucoup à ça. Hein.
C'est un entretien, un premier entretien.
C'est
comment ça se déroule? Donc, il faut avoir la niaque un peu.
C'est ça. Il faut avoir envie d'eux. Hein.
Ouais.
On sait que quand on connaît une période de chômage assez longue, c'est parfois compliqué de reprendre le travail. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de partenaires sur ce territoire. Donc, la mission locale, Pôle emploi, les services sociaux, les CCAS, qui sont amenés à côtoyer des gens en difficulté, donc qui nous les orientent, voilà. Et à partir de là, il y a un entretien qui est organisé. Et évidemment, il y a un côté un peu administratif de l'entrée sur l'association, sur la ressourcerie. Mais après, ils démarrent avec un contrat de travail. Donc c'est très, très important. C'est qu'à nouveau, ils vont avoir un contrat de travail avec un rythme de travail. Donc comme disait Stéphane, c'est lui qui organise l'emploi du temps. Donc ils ont un contrat de travail à hauteur de 26 heures semaine. Ça leur permet de reprendre le pied à l'étrier, d'être accompagnés. À nouveau, ils ont un bulletin de salaire, ils ont un contrat à durée déterminée. Et nous, notre objectif, c'est de les amener à un emploi définitif ou à une formation qualifiante. La ressourcerie est vraiment un vrai lieu d'apprentissage. D'abord, pour apprendre à moins gaspiller, puisque je ne sais plus combien de temps on en est aujourd'hui, Stéphane. Nous avons ouvert qu'en septembre 2022.
Oui,
on a déjà collecté 70 tonnes, vous avez dit,
non. Par exemple, le mois dernier, 2,2 tonnes sur le mois de février. Quoi.
Ouais. En n'ayant pas fait, pour l'instant, si vous voulez...
Trop de publicité ou trop de messages.
Tout à fait. Ouais. Nous sommes dans des locaux qui sont, pour l'instant, pas très grands, mais il n'empêche que ça y est, le bouche à oreille fonctionne. Et c'est vrai que moi, j'ai vu un jeune qu'on a recruté en début d'action au mois de septembre. Bon, je l'ai vu il y a 2-3 mois. C'est plus le même jeune homme, il est transformé, il est très doué en informatique, donc il aide Stéphane à mettre en place toute une gestion logistique à partir d'un tableau Excel qu'il a créé. Voilà. Donc on utilise aussi, on met aussi en valeur, entre guillemets, les compétences de ces personnes qui sont dans le cadre de l'association.
Oui, parce que je suppose, Stéphane, ce sont des profils de des personnes qui viennent nous rencontrer peut-être à un moment donné de la vie où on est un peu en bas, au fond du gouffre, entre guillemets, et puis vous apercevez qu'effectivement, qu'il y a du savoir-faire, des connaissances, un profil qui va exploser au fur et à mesure du temps. Vous les voyez, Stéphane, ces personnes un petit peu qui évoluent comme ça?
Ah oui, absolument. Je vois le changement, en fait. Hein.
Ouais.
Effectivement, l'intérêt d'une ressourcerie, c'est qu'il y a tellement de missions. Par exemple, dans la valorisation, il peut y avoir de la réparation d'une tondeuse à gazon, mais ça peut être aussi poncer un meuble, réparer un meuble. Donc,
c'est assez polyvalent.
Un salarié qui va avoir des compétences en menuiserie va pouvoir s'épanouir. Un autre qui a des compétences en réparation de moteur, il va pouvoir s'épanouir. Un autre qui a envie d'avoir une expérience de vente, eh bien, il va pouvoir aller dans la boutique s'occuper de la vente. Il y a plein.
Et ça, on s'en rend compte, on s'en aperçoit en fait dans votre fonction, justement.
Absolument, absolument. Ouais. Et moi, j'essaye de les orienter vers ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Hein. Voilà.
Donc oui, puisqu'on travaille avec eux.
Non, mais allez-y.
Ce que je voulais dire, c'est que l'idée, c'est de les aider à nouveau à réfléchir à un projet de vie. Ça peut être un projet de vie, hein, parce que quand on a été longtemps au chômage, il faut recréer du lien, redonner un sens. Mais c'est aussi travailler un projet professionnel. Hein. Donc certaines deviennent caristes, d'autres vendeurs. Voilà, il y a vraiment divers projets qui naissent à partir de ce support qui est la ressourcerie. Je voulais quand même préciser qu'au-delà de ça, depuis 1995, nous sommes dans le développement durable avec la collecte de textiles. Donc, je dirais que la ressourcerie, elle est venue un peu compléter ce qu'on faisait déjà. Donc, on a 75 conteneurs répartis sur le sud de l'Eure. Mm-hmm. Nous avons 3 boutiques solidaires qui s'appellent Infini Fripe, Lina Saint-André, Verneuil et Breteuil, qui accueillent là aussi des hommes et des femmes qui sont en difficulté en termes de recherche d'emploi. Et la ressourcerie est venue compléter un peu cette offre de services qu'on avait. Et globalement, sur le chantier ADS Insertion, il y a 100 de salariés qui sont chaque année... qui passe par la structure et qui après retrouve un emploi, une formation qualifiante.
On y reste combien de temps quand on est salarié au sein de la structure
Alors nous, on propose toujours un contrat de 6 mois au départ. Ouais. Il peut aller jusqu'à 24 mois et on s'adapte au parcours de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles vont faire 12, 13, 14 mois. D'autres, elles vont faire 7, 8 mois parce que voilà, le fait de reprendre un emploi, d'avoir un rituel de travail, parce que le travail, c'est ce qui définit un peu notre vie au quotidien. Hein. Mm-hmm. Certains, 7, 8 mois, hop, ils sont reboostés, ils retrouvent un emploi et d'autres vont rester 24 mois parce que voilà, il y a d'autres soucis qu'il faut résoudre, qu'il faut accompagner avec l'ensemble de nos partenaires sur ce territoire, j'insiste vraiment.
Mm-hmm. On en a déjà parlé un peu à l'instant, mais... Pour aller un petit peu plus au cœur de la chose, comment une boutique solidaire se fournit? Est-ce que c'est exclusivement les dons, les fournisseurs? C'est comment il y a
oui, c'est absolument.
Comment on fait en sorte que le rayonnage soit plein, soit.
C'est exclusivement des dons en fait, hein. Mais vous savez, il semble que le gisement d'objets réemployables soit inépuisable parce que faut voir ce qui peut nous être apporté. Mm-hmm. Je connais aucune structure de recyclerie ressourcerie qui soit en manque d'objets en fait. Hein. On vit dans une société de surconsommation qui est telle que on a tous chez nous, moi le premier d'ailleurs, hein, sur une étagère, dans un garage, dans une armoire, un vêtement, un objet dont je me sers plus en fait. Hein. Et cet objet-là, il pourrait avoir un usage pour une autre personne qui en a besoin. Et c'est ça qui est important.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après ça.
In motion all around.
s'appelle En attendant Anna. Ils seront au Cube le vendredi 14 avril prochain. En attendant Anna propose une pop aux mélodies étincelantes et fête la sortie de leur nouvel album. Un extrait qu'on écoute à l'instant, Principia. Vous êtes toujours à l'écoute de Principe Actif. Et ce matin, toujours en direct dans les studios de Principe Actif, on parle de plein de choses. Et là, en ce moment, on a le projecteur sur cette ressourcerie avec la structure ADS Insertion. En direct, en la présence de Latifia Belouari, qui en est la directrice, et l'encadrant Stéphane Gouraud à nos micros. Et puis au bout du fil, on a Monsieur le maire. Monsieur le maire, est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous nous entendez?
Oui, très bien, monsieur.
Bonjour, bonjour, monsieur Roger Alban. Vous êtes le maire des Authieux. Là, jusque-là, j'ai bon.
Oui, tout à fait, c'est très juste. Très bien.
Bon, eh bien, écoutez, monsieur le maire, effectivement, moi j'avais juste une ou deux petites questions, puisque je vous ai au bout du fil. Voilà, je voulais savoir comment la commune, comment le maire, les conseillers municipaux et toutes, toutes ces personnes ont réagi quand le projet de ressourcerie leur a été présenté au sein de la commune des Authieux.
Nous, quand j'ai rencontré la première fois la première personne, puis après la directrice, j'ai présenté ça au conseil municipal. Mmh. Bon, au démarrage, c'était un petit peu réticent par rapport aux conseillers. Vous savez comment c'est les conseillers. Bon, au démarrage, c'est un petit peu dur, mais à la longue, ça s'est bien procédé.
Ah, quand on connaît pas trop, ça fait peur, c'est ça?
Tout à fait.
et donc le projet a été accepté. Est-ce que une ressourcerie, qu'est-ce que ça apporte pour un village comme la commune des Authieux?
Eh bien, si vous aimez mieux, ça va nous ramener une dynamisation de commune par rapport au bout qu'on était, parce qu'on est une petite commune de 305 habitants, donc il fallait faire de l'animation. Et j'avais possibilité à cette époque-là, dans l'école qui était disponible, c'était le moment d'occasion de travailler avec ADS Insertion et en même temps de créer des emplois.
Bon, donc c'est plutôt une bonne chose pour la commune, effectivement.
Ah, tout à fait, oui, oui. C'est parce une bonne chose, une belle réalisation.
En règle générale, une école vide, c'est triste dans un village, et puis ça finit mal souvent l'école. Une école vide, si c'est pas occupé, à un moment donné, oui, ça, c'est pas top. Très bien.
Si vous aimez mieux, la question qu'il y a, c'est qu'on a perdu l'école en 2018 parce qu'on voulait refaire un recensement d'une nouvelle commune à cette époque-là avec le gouvernement. Bon, ça échoue en route et c'est pour ça qu'on avait récupéré notre école.
Très bien, très bien. Vous, monsieur le maire, ça vous arrive d'aller faire un petit tour du côté de la ressourcerie et puis d'aller voir s'il y a des petites choses qui peuvent vous intéresser?
Mais bien, tout à fait. Il y a moi, il y a ma femme, les voisins, tout ça, ils ont déjà été. Mm-hmm. Moi, de temps en temps, je m'arrête là-bas. Et c'est comme ça que j'ai su que la relation avec la présidente, puis vous, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai connu ça.
Eh ben voilà, ben très bien. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions en direct dans les studios de Principe Actif. Merci, monsieur le maire.
De rien, puis je vous souhaite une bonne journée, puis à tout le monde, à vous, tout le studio, puis à bientôt.
À bientôt, au revoir. Voilà, au revoir. Très bien. Alors, je reviens sur le plateau, puis effectivement, on se disait, c'est vrai qu'une école aussi, ne serait-ce que le bâtiment en lui-même, redonner vie à un bâtiment comme une école, c'est important quelque part.
Oui, je partage tout à fait. C'est vrai que la première fois que moi je suis allée, moi j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu, parce que voilà, j'imaginais les enfants qui jouaient dans la cour, voilà, rouvrir à nouveau une école. C'est très grand, il y a une grande cour et tout. Et voilà, nous, ça nous a séduit. Donc, j'étais avec deux membres du conseil d'administration, le président et le vice-président. Et tout de suite, on a eu un coup de cœur pour ce lieu. Bon, après, pas facile pour l'encadrant de pouvoir imaginer l'aménagement. Mais
il y a
eu beaucoup
de transformations.
Alors, nous, on n'est pas très riches. Hein, nous sommes une petite association. Hein, voilà. Donc, on va dire que Stéphane y a mis beaucoup d'imagination. Je pense que ça fait aussi partie de ça. La recyclerie, c'est aussi redonner vie à un lieu comme ça, avec les moyens du bord. Donc, ça a été le premier travail que Stéphane a fait avec son équipe. Et ça a été aussi d'installer, de mettre en place une organisation pour que les gens puissent s'y retrouver. Mais voilà, donc ça, c'était aussi un pari pour Stéphane.
Stéphane, ça passe par quoi?
Et un pari plutôt réussi, moi, je trouve.
Ça passe par quoi? Ça va se monter du rayonnage, boucher les casser, changer des carreaux peut-être, de casser, ou mettre un peu de plus de chauffage, comment?
Ça passe aussi, par exemple, par la fabrication d'un comptoir avec des palettes.
Tout simplement.
Par un salarié.
Oui, qui a eu cette idée-là, qui vous a proposé cette idée.
J'avais l'idée, ouais. Moi, je vais montrer sur Internet des photos avec des palettes, et il a dit, mais j'ai le plan dans la tête, je sais que je vais le faire, et il m'a fait un truc super.
Ouais. Voilà. C'est ça.
Et puis vous avez aménagé avec toute l'équipe, tout l'espace de vente.
Oui.
En surface, ça s'élève à combien en mètres carrés, ça?
Il n'y a pas de... C'est 200, non, je sais plus.
135 mètres carrés au total. Bon, après, il y a le préau qui nous sert.
Oui, il y a la cour aussi. Qu'il y a la cour de récréation, il y a le préau.
Dans la cour, on a monté un barnum également pour les gros objets. Ouais. Donc, il y a une salle de classe où on va vendre les petits objets, une salle de classe, en fait, qui sert à la valorisation. Et puis après, il y a les annexes dans lesquelles on stocke, plus le barnum dans la cour, parce que la cour est grande, hein, ça c'est intéressant quand même.
Quand il va faire beau, ça va être ça va permettre de mettre en place des animations.
Oui, parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire quelque chose au beau jour. Allez découvrir ça dans quelques mois.
Et puis l'idée, c'est aussi d'instaurer un partenariat, notamment avec les écoles, pour essayer de sensibiliser les enfants au plus jeune âge. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Stéphane.
Avec les écoles, avec d'autres associations. On travaille aussi avec
Pied à coulisses.
Oui, le pied à coulisses avec
William, qu'on a reçu déjà en matinale.
Famille rurale, enfin. Avec la Croix-Rouge, avec les Restos du Cœur. Enfin, on est en relation avec plein d'associations, en fait.
Donc ça, c'est des partenaires avec qui vous allez effectivement faire évoluer le projet.
C'est ça. Parce que l'idée, c'est aussi de mettre vraiment une vraie dynamique dans la recyclerie pour que les gens aient plaisir à venir et de voir aussi qu'on peut diminuer. Aujourd'hui, malheureusement, la planète, elle va pas très bien. Donc nous, ce que je disais tout à l'heure hors antenne, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup de redonner une seconde vie. Nous, on est dedans, les associations comme les nôtres, depuis, on va dire, 40-50 ans, au travers de la récupération du textile. La plupart ont démarré comme ça. Nous, donc l'année dernière, pour information, grâce au conteneur qu'on a, on a collecté 340 tonnes de textiles et d'objets divers qui ne sont pas allés
à
la poubelle. Et ça fait travailler une centaine de personnes. Donc, il y a ce côté vertueux aussi.
Mais c'est ça, effectivement, une ressourcerie vertueuse, comme vous dites. C'est bien plus qu'une boutique.
C'est le
petit coup de projecteur sur la boutique, mais ça permet autre chose aussi.
Tout à fait.
On en a parlé dès le départ. On peut même en reparler un petit peu pour les auditeurs qui prennent l'émission à l'antenne. Mais c'est ça, c'est de remettre des personnes
au travail. Mais c'est surtout, ce que disait tout à l'heure Stéphane, c'est quand les gens viennent, ils ont plaisir aussi. Il y a une relation avec l'objet qui est complètement particulière. Des personnes, moi je les vois parfois, elles viennent déposer parce que ils savent où ça va. Ça fait travailler des gens du territoire, du sud de l'Eure. Ils savent que c'est pas, ça part pas à droite à gauche. C'est vraiment local. Ça peut pas être délocalisé. Et le partenariat qu'on a avec nos acteurs, c'est ça. C'est qu'on maintient de l'emploi à proximité des personnes en difficulté. Il faut savoir qu'une des problématiques du public que nous accueillons dans le sud de l'Eure, c'est la mobilité. C'est-à-dire, oui, je veux bien travailler, mais comment je fais pour aller travailler? Et ADS a toujours défendu l'idée de créer des projets qui soient à proximité. Pour autant, ça ne nous empêche pas, une fois qu'ils sont dans la recyclerie, par exemple, à ce qu'ils passent leur permis de conduire, parce qu'on les aide à passer leur permis de conduire, à avoir une voiture, parce qu'on sait que l'emploi, il n'est pas à deux pas de chez eux. Il faut avoir une ouverture et pouvoir chercher. Donc, la recyclerie permet aussi d'accompagner ces personnes pour les rendre autonomes et pouvoir retrouver un emploi définitif. Et je pense que les gens apprécient ce côté-là quand ils viennent à ADS.
Et notamment les jeunes, parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler dans le cadre d'une émission avec la mission locale. On avait une personne de chez vous, on peut la citer.
Oui, Sophie Haribar, avec Nathalie Etino,
qui était venue dans le cadre d'une émission de nos jeunes de Principe Actif, j'allais dire, mais de mission locale et de la radio Principe Actif, à ce sujet, justement, la complexité de se déplacer quand on est à la campagne et quand on est loin de structure.
De tout.
Exactement. Le rapport avec l'objet, on en parlait hors micro tout à l'heure, Stéphane, effectivement, vous disiez, les gens, ils amènent des choses, mais en fait, ils repartent avec d'autres choses. Ça se passe régulièrement comme ça, en fait.
Oui, c'est ça. Il faut remplacer un petit peu la notion de propriété d'un objet qui n'est pas utilisé par la notion d'usage, en fait. On a tous des objets, encore une fois, qu'on n'utilise plus, on ne sait même plus qu'on les a, en fait. Parfois, on les a oubliés, ils sont au fond d'un garage, sur une étagère. Et ces objets, ils ont une utilité.
Pour quelqu'un,
forcément. Donc, la grande majorité des gens, en fait, déjà, ils s'approprient un petit peu la ressourcerie. C'est leur ressourcerie, hein, au niveau local. Et les gens viennent nous déposer des objets et ensuite, ils passent en boutique, ils repartent avec d'autres objets. Voilà.
J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi l'utilisation d'outils Internet maintenant, puisqu'on est à l'ère de l'Internet, et pour pouvoir faire connaître et faire savoir ce qu'on met en place du côté des otieux, du côté de la ressourcerie et du côté aussi de la structure ADS, on peut en parler un petit peu plus. On prend des photos, on les met sur le site. Et vous avez créé, comment ça se passe? Ce sont des personnes aussi au sein de la structure qui ont apporté leur valeur ajoutée, leur expertise dans ce domaine.
On a créé une page en fait sur un réseau social qui est très connu, qui s'appelle Facebook, qui s'appelle Ressourcerie ADS Les Otieux.
Ouais, voilà.
Donc en allant sur cette page là, ça permet de voir les nouveaux objets qui arrivent chaque jour. Il faut savoir que la boutique est n'est ouverte en fait que le mercredi après-midi de 13h à 17h30. Le vendredi après-midi de 13h à 17h30 et le samedi toute la journée de 9h à 17h30. On n'est pas, c'est pas un magasin qui est ouvert toute la semaine, vous voyez. On a de
parce que vous avez d'autres activités à côté.
Il y a la valorisation, il y a la collecte, il y a tout ce travail-là, la préparation, le nettoyage. Vous imaginez bien que des jouets, par exemple pour les enfants de premier âge, voilà, il faut les nettoyer. Les enfants, ils vont mettre ça à la bouche, etc. Il y a un gros travail de valorisation.
Bien sûr. Voilà. Donc deux demi-journées plus une journée complète le samedi.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Voilà. Si on veut en savoir un petit peu plus, davantage, un site, information. On réécoute l'émission de ce matin, mais il n'y a pas que.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas. Nous sommes en train de faire un gros travail sur les outils de communication, hein, parce que on sait qu'aujourd'hui. Tout passe par les réseaux sociaux, etc. Donc, on est accompagné par un communicant pour revoir un petit peu tous les sites internet. Donc, on a un site internet, c'est www.adssanspoids.com. Et on a donc une page Facebook. Et après, on distribue. Enfin, on a aussi la possibilité de déposer des documents dans les mairies, parce qu'on a un bon partenariat avec l'ensemble des mairies de ce territoire. Donc, on dépose de la documentation. Alors, la documentation, elle est aussi à l'usage des demandeurs d'emploi. Moi, je tiens vraiment à préciser que, oui, c'est une recyclerie, mais qui crée de l'emploi, comme les boutiques Infinifrip. Donc, si vous recherchez un emploi sur ce territoire, donc nous sommes d'Ivry-la-Bataille jusqu'à Rugles, hein, donc on couvre toutes les communes du sud de l'Eure. N'hésitez pas à frapper à la porte d'ADS, ce sera avec plaisir.
Merci infiniment Latifa Belouari et Stéphane Gorot d'être passés par les micros de Principe Actif et de nous parler de cette ancienne école du village qui abrite une ressourcerie aux Otieux et de ADS Insertion, la structure qui gère un peu tout ça. Voilà, merci à vous.
Merci de nous avoir accueillis.
Merci.
Allez, bye bye. Demain, c'est la mideuse aux manettes.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer mon soir.